L'éducation sentimentale, troisième partie, fin du chapitre 1. Puis il éprouva le besoin de voir Rosanette. Après tant de laideurs et d'emphase, sa gentille personne serait un délassement. Elle savait qu'il avait dû, le soir, se présenter dans un club. Cependant, lorsqu'il entra, elle ne lui fit pas même une question. Elle se tenait près du feu, décousant la doublure d'une robe. Un pareil ouvrage le surprit. « Tiens, qu'est-ce que tu fais ?»«
Tu le vois, » dit-elle sèchement. « Je raccommode mes hardes. C'est ta république. »«
Pourquoi ma république ?»«
C'est la mienne, peut-être. »
Et elle se mit à lui reprocher tout ce qui se passait en France depuis 2 mois, l'accusant d'avoir fait la révolution, d'être cause qu'on était ruiné, que les gens riches abandonnaient Paris, et qu'elle mourrait plus tard à l'hôpital.
« Tu en parles à ton aise, toi, avec tes rentes. Du reste, au train dont ça va, tu ne les auras pas longtemps, tes rentes. »«
Cela se peut, » dit Frédéric. « Les plus dévoués sont toujours méconnus. Et si l'on avait pour soi sa conscience, les brutes avec qui l'on se compromet vous dégoûteraient de l'abnégation. » Rosanette le regarda, les cils rapprochés.
« Hein ?
Quoi ? Quelle abnégation ? Monsieur n'a pas réussi à ce qu'il paraît ? Tant mieux, ça t'apprendra à faire des dons patriotiques. Oh, ne manque pas, je sais que tu leur as donné 300 francs, car elle se fait entretenir, ta république. Eh bien, amuse-toi avec elle, mon bonhomme. »
Sous cette avalanche de sottises, Frédéric passait de son autre désappointement à une déception plus lourde. Il s'était retiré au fond de la chambre. Elle vint à lui.
« Voyons, raisonne un peu. Dans un pays comme dans une maison, il faut un maître. Autrement, chacun fait dans ses lances du panier. D'abord, tout le monde sait que le Dru Rollin est couvert de dettes. Quant à Lamartine, comment veux-tu qu'un poète s'entende à la politique ?
Ah, tu as beau hocher la tête et te croire plus d'esprit que les autres, c'est pourtant vrai. » Mais tu ergotes toujours, on ne peut pas placer un mot avec toi. Voilà, par exemple, Fournier Fontaine, des magasins de Saint-Roch. Sais-tu combien il manque ? De 800 000 francs. Et Gomer, l'emballeur d'en face, un autre républicain, celui-là. Il cassait les pincettes sur la tête de sa femme, et il a bu tant d'absinthe qu'on va le mettre dans une maison de santé. C'est comme ça qu'ils sont tous, les républicains. Une république à 25%. Ah oui, vante-toi.
Frédéric s'en alla. L'ineptie de cette fille, se dévoilant tout à coup dans un langage populacier, le dégoûtait. Il se sentit même un peu redevenu patriote. La mauvaise humeur de Rosanette ne fit que s'accroître. Mademoiselle Vatenas l'irritait par son enthousiasme. Se croyant une mission, elle avait la rage de pérorer, de catéchiser, et, plus forte que son amie dans ces matières, l'accablait d'arguments. Un jour, elle arriva tout indignée contre Hussonnet, qui venait de se permettre des polissonneries au club des femmes. Rosanette approuva cette conduite, déclarant même qu'elle prendrait des habits d'homme pour aller leur dire leur fête à toutes et les fouetter. Frédéric entrait au même moment.
« Tu m'accompagneras, n'est-ce pas ?»
Et malgré sa présence, elles se chamaillèrent, l'une faisant la bourgeoise, l'autre la philosophe. Les femmes, selon Rosanette, étaient nées exclusivement pour l'amour ou pour élever des enfants, pour tenir un ménage. D'après Mademoiselle Vatenas, la femme devait avoir sa place dans l'État. Autrefois, les Gauloises légiféraient, les Anglo-Saxonnes aussi. Les épouses des Hurons faisaient partie du conseil. L'œuvre civilatrice était commune. Il fallait tout y concourir et substituer enfin à l'égoïsme la fraternité, à l'individualisme l'association, au morcellement la grande culture.
Allons bon, tu te connais en culture à présent.
Pourquoi pas ? D'ailleurs, il s'agit de l'humanité, de son avenir.
« Mêle-toi du tien. »«
Ça me regarde. »
Elle se fâchait. Frédéric s'interposa.
La Vatnase s'échauffait et arriva même à soutenir le communisme.
« Quelle bêtise !» dit Rosanette. « Est-ce que jamais ça pourra se faire ?»
L'autre cita en preuve les Esséniens, les frères Moraves, les Jésuites du Paraguay, la famille des Pingons, près de Thiers en Auvergne. Et comme elle gesticulait beaucoup, sa chaîne de montre se prit dans son paquet de breloques à un petit mouton d'or suspendu. Tout à coup, Rosanette pâlit extraordinairement. Mademoiselle Vatnase continuait à dégager son bibelot.
« Ne te donne pas tant de mal, » dit Rosanette. « Maintenant, je connais tes opinions politiques. »«
Quoi ?» reprit la Vatnase, devenue rouge comme une vierge.
« Oh, tu me comprends ?»
Frédéric ne comprenait pas. Entre elles, évidemment, il était survenu quelque chose de plus capital et de plus intime que le socialisme.
« Et quand cela serait ?»
répliqua la Vatnase, se redressant intrépidement.
« C'est un emprunt, ma chère. Dette pour dette.
Parbleu, je n'ai pas les miennes. Pour quelques 1000 francs, belle histoire. J'emprunte au moins. Je ne vole personne. »
Mademoiselle Vatnase s'efforça de rire.
« Oh, j'en mettrai ma main au feu. »«
Prends garde, elle est assez sèche pour brûler. »
La vieille fille lui présenta sa main droite et la gardant levée juste en face d'elle.
« Mais il y a de tes amis qui la trouvent à leur convenance. »«
Des Andalous, alors, comme Castagnette. »«
Gueuse !»
La maréchale fit un grand salut.
« On n'est pas plus ravissante. »
Mademoiselle Vatnase ne répondit rien. Des gouttes de sueur parurent à ses tempes, ses yeux se fixaient sur le tapis. Elle haletait. Enfin, elle gagna la porte et, la faisant claquer vigoureusement,
« Bonsoir, vous aurez de mes nouvelles. »«
À l'avantage, » dit Rosanette. Sa contrainte l'avait brisée. Elle tomba sur le divan, toute tremblante, balbutiant des injures, versant des larmes. Était-ce cette menace de la Vatnase qui la tourmentait ?
Non, elle s'en moquait bien.
À tout compter, l'autre lui devait de l'argent, peut-être. C'était le mouton d'or, un cadeau. Et au milieu de ses pleurs, le nom de Delmar lui échappa. Donc, elle aimait le cabotin.
« Alors, pourquoi m'a-t-elle pris ?»
se demanda Frédéric. « D'où vient qu'il est revenu ? Qui la force à me regarder ? Quel est le sens de tout cela ?» Les petits sanglots de Rosanette continuaient. Elle était toujours au bord du divan, étendue de côté, la joue droite sur ses deux mains, et semblait un être si délicat, inconscient et endolori, qu'il se rapprocha d'elle et la baisa au front, doucement. Alors, elle lui fit des assurances de tendresse. Le prince venait de partir, il serait libre. Mais elle se trouvait pour le moment gênée. « Tu l'as vu toi-même l'autre jour, quand j'utilisais mes vieilles doublures. Plus d'équipage à présent. » Et ce n'était pas tout. Les tapissiers menaçaient de reprendre les meubles de la chambre et du grand salon. Elle ne savait que faire. Frédéric eut envie de répondre « Ne t'inquiète pas, je paierai. » Mais la dame pouvait mentir. L'expérience l'avait instruit. Il se borna simplement à des consolations. Les craintes de Rosanette n'étaient pas vaines. Il fallut rendre les meubles, et quittait le bel appartement de la rue Drouot. Elle en prit un autre sur le boulevard Poissonnière, au 4e. Les curiosités de son ancien boudoir furent suffisantes pour donner aux 3 pièces un air coquet. On eut des stores chinois, une tente sur la terrasse, dans le salon un tapis de hasard encore tout neuf, avec des poufs de soie rose. Frédéric avait contribué largement à ses acquisitions. Il éprouvait la joie d'un nouveau marié qui possède enfin une maison à lui, une femme à lui, et se plaisant là beaucoup, il venait y coucher presque tous les soirs. Un matin, comme il sortait de l'antichambre, il aperçut au 3e étage, dans l'escalier, le shako d'un garde national qui montait. Où allait-il donc ? Frédéric attendit. L'homme montait toujours, la tête un peu baissée. Il leva les yeux. C'était le sieur Arnoux. La situation était claire. Ils rougirent en même temps, saisis par le même embarras. Arnoux le premier trouva moyen d'en sortir. « Elle va mieux, n'est-il pas vrai ?» Comme si, Rosanette étant malade, il se fût présenté pour avoir de ses nouvelles. Frédéric profita de cette ouverture. « Oui, certainement, sa bonne me l'a dit. » Du moins, voulant faire entendre qu'on ne l'avait pas reçue. Puis ils restèrent face à face, irrésolus l'un et l'autre, et s'observant. C'était à qui des deux ne s'en irait pas. Arnoux, encore une fois, trancha la question. « Ah bah, je reviendrai plus tard. Où vouliez-vous aller? Je vous accompagne. » Et quand ils furent dans la rue, il causa aussi naturellement que d'habitude. Sans doute, il n'avait point le caractère jaloux, ou bien il était trop bonhomme pour se fâcher. D'ailleurs, la patrie le préoccupait. Maintenant, il ne quittait plus l'uniforme. Le 29 mars, il avait défendu les bureaux de la presse. Quand on envahit la chambre, il se signala par son courage, et il fut du banquet offert à la garde nationale d'Amiens. Hussonnet, toujours de service avec lui, profitait plus que personne de sa gourde et de ses cigares. Mais, irrévérencieux par nature, il se plaisait à le contredire, dénigrant le style peu correct des décrets, les conférences du Luxembourg, les Vésuviennes, les Tyroliens, tout, jusqu'au char de l'agriculture, traîné par des chevaux à la place de bœufs et escorté de jeunes filles laides. Arnoux, au contraire, défendait le pouvoir et rêvait la fusion des partis. Cependant, ses affaires prenaient une tournure mauvaise. Il s'en inquiétait médiocrement. Les relations de Frédéric et de la maréchale ne l'avaient point attristé, car cette découverte l'autorisa, dans sa conscience, à supprimer la pension qu'il lui refaisait depuis le départ du prince. Il allégua l'embarras des circonstances, gémit beaucoup, et Rosanette fut généreuse. Alors M. Arnoux se considéra comme l'amant de cœur, ce qui le rehaussait dans son estime et le rajeunit. Ne doutant pas que Frédéric ne payât la maréchale, il s'imaginait faire une bonne farce, arriva même à s'en cacher et lui laissait le champ libre quand ils se rencontraient. Ce partage blessait Frédéric, et les politesses de son rival lui semblait une gouaillerie trop prolongée. Mais en se fâchant, il se fut ôté toute chance d'un retour vers l'autre. Et puis, c'était le seul moyen d'en entendre parler. Le marchand de faïence, suivant son usage, ou par malice peut-être, la rappelait volontiers dans sa conversation et lui demandait même pourquoi il ne venait plus la voir. Frédéric, ayant épuisé tous les prétextes, assura qu'il avait été chez Madame Arnoux plusieurs fois, inutilement. Arnoux en demeura convaincu, car souvent il s'extasiait devant elle sur l'absence de leur ami, et toujours elle répondait avoir manqué sa visite, de sorte que ces deux mensonges, au lieu de se couper, se corroboraient. La douceur du jeune homme et la joie de l'avoir pour dupe faisaient qu'Arnoux le chérissait davantage. Il poussait la familiarité jusqu'aux dernières bornes, non par dédain, mais par confiance. Un jour, il lui écrivit qu'une affaire urgente l'attirait pour 24 heures en province. Il le priait de monter la garde à sa place. Frédéric n'osa le refuser et se rendit au poste du carrousel. Il eut à subir la société des gardes nationaux. Et, sauf un épurateur, homme facétieux qui buvait d'une manière exorbitante, tous lui parurent plus bêtes que leur giberne. L'entretien capital fut sur le remplacement des buffleteries par le ceinturon. D'autres s'emportaient contre les ateliers nationaux. On disait « Où allons-nous ? » Celui qui avait reçu l'apostrophe répondait en ouvrant les yeux, comme au bord d'un abîme « Où allons-nous ? » Alors un plus hardi s'écriait « Ça ne peut pas durer, il faut en finir. » Et les mêmes discours se répétant jusqu'au soir, Frédéric s'ennuya mortellement. La surprise fut grande quand, à 11 heures, il vit paraître Arnoux, lequel, tout de suite, dit qu'il accourait pour le libérer, son affaire étant finie. Il n'avait pas eu d'affaire. C'était une invention, pour passer 24 heures seul avec Rosanette. Mais le brave Arnoux avait trop présumé de lui-même, si bien que, dans sa lassitude, un remords l'avait pris. Il venait faire des remerciements à Frédéric et lui offrir à souper. « Mille grâces, je n'ai pas faim, je ne demande que mon lit. »«
Raison de plus pour déjeuner ensemble, tantôt. Quelle mollasse vous êtes! On ne rentre pas chez soi maintenant, il est trop tard, ce serait dangereux. »
Frédéric, encore une fois, céda. Arnoux, qu'on ne s'attendait pas à voir, fut choyé de ses frères d'armes, principalement de l'épurateur. Tous l'aimaient, et il était si bon garçon qu'il regretta la présence du sonnet. Mais il avait besoin de fermer l'œil une minute, pas davantage. «
Mettez-vous près de moi, » dit-il à Frédéric, tout en s'allongeant sur le lit de Caen, sans ôter ses mufleteries.
Par peur d'une alerte, en dépit du règlement, il garda même son fusil. Puis balbutia quelques mots.
« Ma chérie, mon petit ange !»
et ne tarda pas à s'endormir. Ceux qui parlaient se turent, et peu à peu il se fit dans le poste un grand silence. Frédéric, tourmenté par les puces, regardait autour de lui. La muraille, peinte en jaune, avait à moitié de sa hauteur une longue planche où les sacs formaient une suite de petites bosses, tandis qu'au-dessous, les fusils couleur de plomb étaient dressés les uns près des autres. Et il s'élevait des ronflements, produits par les gardes nationaux, dont les ventres se dessinaient d'une manière confuse dans l'ombre. Une bouteille vide et des assiettes couvraient le poêle. Trois chaises de paille entouraient la table, où s'étalait un jeu de cartes. Un tambour, au milieu du banc, laissait pendre sa bricole. Le vent chaud, arrivant par la porte, faisait fumer le quinquet. Arnoux dormait les deux bras ouverts, et comme son fusil était posé la crosse en bas, un peu obliquement, la gueule du canon lui arrivait sous l'aisselle. Frédéric le remarqua et fut effrayé.
« Mais non, j'ai tort, il n'y a rien à craindre. S'il mourait, cependant... »
Et tout de suite, des tableaux à n'en plus finir se déroulèrent. Il s'aperçut avec elle, la nuit, dans une chaise de poste, puis au bord d'un fleuve, par un soir d'été, et sous le reflet d'une lampe, chez eux, dans leur maison. Il s'arrêtait même à des calculs de ménage, des dispositions domestiques, contemplant, palpant déjà son bonheur. Et pour le réaliser, il aurait fallu seulement que le chien du fusil se levât. On pouvait le pousser du bout de l'orteil, le coup partirait, ce serait un hasard, rien de plus. Frédéric s'étendit sur cette idée comme un dramaturge qui compose. Tout à coup, il lui sembla qu'elle n'était pas loin de se résoudre en action et qu'il allait y contribuer, qu'il en avait envie. Alors, une grande peur le saisit. Au milieu de cette angoisse, il éprouvait un plaisir et s'y enfonçait de plus en plus, sentant avec effroi ses scrupules disparaître. Dans la fureur de sa rêverie, le reste du monde s'effaçait, et il n'avait conscience de lui-même que par un intolérable serrement à la poitrine.
« Prenons-nous le vin blanc ?» dit l'épurateur qui s'éveillait.
Arnoux sauta par terre, et le vin blanc étant pris, voulut monter la faction de Frédéric. Puis il l'emmena déjeuner rue de Chartres, chez Parly, et comme il avait besoin de se refaire, il se commanda deux plats de viande, un homard, une omelette au rhum, une salade, etc. Le tout arrosé d'un Sauterne 1819, avec un Romané 42, sans compter de champagne au dessert, et les liqueurs. Frédéric ne le contraria nullement. Il était gêné, comme si l'autre avait pu découvrir, sur son visage, les traces de sa pensée. Les deux coudes au bord de la table, et penchés très bas, Arnoux, en le fatiguant de son regard, lui confiait ses imaginations.
il avait envie de prendre à ferme tous les remblais de la ligne du Nord pour y semer des pommes de terre, ou bien d'organiser sur les boulevards une cavalcade monstre où les célébrités de l'époque figureraient. Il louerait toutes les fenêtres, ce qui, à raison de 3 francs en moyenne, produirait un joli bénéfice. Bref, il rêvait un grand coup de fortune par un accaparement. Il était moral, cependant, blâmait les excès, l'inconduite, parlait de son pauvre père. Et tous les soirs, disait-il, il faisait son examen de conscience avant d'offrir son âme à Dieu. Un peu de curaçao, hein? Comme vous voudrez. Quant à la République, les choses s'arrangeraient. Enfin, il se trouvait l'homme le plus heureux de la terre. Et, s'oubliant, il vanta les qualités de Rosanette, la compara même à sa femme. C'était bien autre chose. On n'imaginait pas d'aussi belles cuisses. À votre santé. Frédéric trinqua. Il avait, par complaisance, un peu trop bu. D'ailleurs, le grand soleil l'éblouissait. Et quand ils remontèrent ensemble la rue Vivienne, leurs épaulettes se touchaient fraternellement. Rentré chez lui, Frédéric dormit jusqu'à 7 heures. Ensuite, il s'en alla chez la maréchale. Elle était sortie avec quelqu'un. Avec Arnoux, peut-être. Ne sachant que faire, il continua sa promenade sur le boulevard, mais ne put dépasser la porte Saint-Martin, tant il y avait de monde. La misère abandonnait à eux-mêmes un nombre considérable d'ouvriers. Et ils venaient là, tous les soirs, se passer en revue, sans doute, et attendre un signal. Malgré la loi contre les attroupements, ces clubs du désespoir augmentaient d'une manière effrayante, et beaucoup de bourgeois s'y rendaient quotidiennement, par bravade, par mode. Tout à coup, Frédéric aperçut, à 3 pas de distance, Monsieur d'Ambreuse avec Martinon. Il tourna la tête, car Monsieur d'Ambreuse s'étant fait nommer représentant, il lui gardait rancune. Mais le capitaliste l'arrêta. « Un mot, cher monsieur, j'ai des explications à vous fournir. »«
Je n'en demande pas. »«
De grâce, écoutez-moi. » Ce n'était nullement sa faute. On l'avait prié, contraint en quelque sorte. Martinon tout de suite appuya ses paroles. Des Nogentais en députation s'étaient présentés chez lui. D'ailleurs, j'ai cru être libre du moment... Une poussée de monde sur le trottoir força M. d'Ambreuse à s'écarter. Une minute après, il reparut en disant à Martinon « C'est un vrai service, cela. Vous n'aurez pas à vous repentir. » Tous les trois s'adossèrent contre une boutique afin de causer plus à l'aise. On criait de temps en temps « Vive Napoléon ! Vive Barbès ! À bas Marie !» La foule innombrable parlait très haut, et toutes ces voix, répercutées par les maisons, faisaient comme le bruit continuel des vagues dans un port. À de certains moments, elles se taisaient. Alors la Marseillaise s'élevait. Sous les portes cochères, des hommes d'allure mystérieuse proposaient des cannes à dards. Quelquefois, 2 individus, passant l'un devant l'autre, clignaient de l'œil et s'éloignaient prestement. Des groupes de badauds occupaient les trottoirs. Une multitude compacte s'agitait sur le pavé. Des bandes entières d'agents de police sortant des ruelles y disparaissaient à peine entrées. De petits drapeaux rouges, çà et là, semblaient des flammes. Les cochers, du haut de leurs sièges, faisaient de grands gestes, puis s'en retournaient. C'était un mouvement, un spectacle des plus drôles. « Comme tout cela, dit Martinon, aurait amusé mademoiselle Cécile. Ma femme, vous savez bien, n'aime pas que ma nièce vienne avec nous, » reprit en souriant monsieur d'Ambreuse. On ne l'aurait pas reconnu. Depuis 3 mois, il criait « Vive la République !» Et même, il avait voté le bannissement des d'Orléans. Mais les concessions devaient finir. Il se montrait furieux jusqu'à porter un casse-tête dans sa poche. Martinon aussi en avait un. La magistrature n'étant plus inamovible,
il s'était retiré du parquet, si bien qu'il dépassait en violence M. d'Ambreuse. Le banquier haïssait particulièrement Lamartine, pour avoir soutenu le Drurolin, et avec lui, Pierre Leroux, Proudhon. Considérant, l'amenait, tous les cerveaux brûlés, tous les socialistes. Car enfin, que veulent-ils? On a supprimé l'octroi sur la viande et la contrainte par corps. Maintenant, on étudie le projet d'une banque hypothécaire. L'autre jour, c'était une banque nationale. Et voilà 5 millions au budget pour les ouvriers. Mais heureusement, c'est fini, grâce à Monsieur de Falou. Bon voyage, qu'il s'en aille. En effet, ne sachant comment nourrir les 130 000 hommes des ateliers nationaux, le ministre des Travaux publics avait, ce jour-là même, signé un arrêté qui invitait tous les citoyens entre 18 et 20 ans à prendre du service comme soldats, ou bien à partir vers les provinces pour y remuer la terre. Cette alternative les indigna, persuadés qu'on voulait détruire la République. L'existence loin de la capitale les affligeait comme un exil. Ils se voyaient mourant par les fièvres dans des régions farouches. Pour beaucoup, d'ailleurs, accoutumés à des travaux délicats, l'agriculture semblait un avilissement. C'était un leurre, enfin, une dérision, le déni formel de toutes les promesses. S'ils résistaient, on emploierait la force. Ils n'en doutaient pas et se disposaient à la prévenir. Vers 9 heures, les attroupements formés à la Bastille et au Châtelet refluèrent sur le boulevard. De la porte Saint-Denis à la porte Saint-Martin, cela ne faisait plus qu'un grouillement énorme, une seule masse d'un bleu sombre, presque noir. Les hommes que l'on entrevoyait avaient tous les prunelles ardentes, le teint pâle, des figures amaigries par la faim, exaltées par l'injustice. Cependant, des nuages s'amoncelaient. Le ciel orageux chauffant l'électricité de la multitude, elle tourbillonnait sur elle-même, indécise, avec un large balancement de houle. Et l'on sentait dans ses profondeurs une force incalculable, et comme l'énergie d'un élément. Puis tous se mirent à chanter « Des lampions, des lampions !» Plusieurs fenêtres ne s'éclairaient pas. Des cailloux furent lancés dans leurs carreaux. Monsieur d'Ambreuse jugea prudent de s'en aller. Les deux jeunes gens le reconduisirent. Il prévoyait de grands désastres. Le peuple, encore une fois, pouvait envahir la chambre, et à ce propos, il raconta comment il serait mort le 15 mai sans le dévouement d'un garde national. « Mais c'est votre ami, j'oubliais, votre ami, le fabricant de faïence, Jacques Arnoux. » Les gens de l'émeute l'étouffaient. Ce brave citoyen l'avait pris dans ses bras et déposé à l'écart. Aussi, depuis lors, une sorte de liaison s'était faite. Il faudra un de ces jours dîner ensemble, et puisque vous le voyez souvent, assurez-le que je l'aime beaucoup. C'est un excellent homme, calomnié selon moi, et il a de l'esprit le matin. Mes compliments encore une fois. Bien le bonsoir. Frédéric, après avoir quitté M. d'Ambreuse, retourna chez la maréchale, et d'un air très sombre, dit qu'elle devait opter entre lui et Arnoux. Elle répondit avec douceur qu'elle ne comprenait goutte à des ragots pareils, n'aimait pas Arnoux, n'y tenait aucunement. Frédéric avait soif d'abandonner Paris. Elle ne repoussa pas cette fantaisie, et ils partirent pour Fontainebleau dès le lendemain. L'hôtel où ils logèrent se distinguait des autres par un jet d'eau clapotant au milieu de la cour. Les portes des chambres s'ouvraient sur un corridor, comme dans les monastères. Celle qu'on leur donna était grande, fournie de bons meubles, tendue d'indienne et silencieuse, vu la rareté des voyageurs. Le long des maisons, des bourgeois inoccupés passaient. Puis, sous leurs fenêtres, quand le jour tomba, des enfants dans la rue firent une partie de bar, et cette tranquillité, succédant pour eux au tumulte de Paris, leur causait une surprise, un apaisement.
Le matin de bonne heure, ils allèrent visiter le château. Comme ils entraient par la grille, ils aperçurent sa façade tout entière, avec les 5 pavillons à toits aigus et son escalier en fer à cheval se déployant au fond de la cour, que bordent, de droite et de gauche, 2 corps de bâtiments plus bas. Des lichens sur les pavés se mêlent de loin au ton fauve des briques, et l'ensemble du palais, couleur de rouille comme une vieille armure, avait quelque chose de royalement impassible, une sorte de grandeur militaire et triste. Enfin, un domestique, portant un trousseau de clés, parut. Il leur montra d'abord les appartements des reines, l'oratoire du pape, la galerie de François Ier, la petite table d'acajou sur laquelle l'empereur signa son abdication, et dans une des pièces qui divisait l'ancienne galerie des serres, l'endroit où Christine fit assassiner Modaldelski. Rosanette écouta cette histoire attentivement. Puis, se tournant vers Frédéric, « C'était par jalousie, sans doute. Prends garde à toi. » Ensuite, ils traversèrent la salle du conseil, la salle des gardes, la salle du trône, le salon de Louis XIII. Les hautes croisées, sans rideaux, épanchaient une lumière blanche. De la poussière ternissait légèrement les poignées des espagnolettes, le pied de cuivre des consoles. Des nappes de grosses toiles cachaient partout les fauteuils. On voyait au-dessus des portes des châsses Louis XV et çà et là des tapisseries représentant les dieux de l'Olympe, Psyché ou les batailles d'Alexandre. Quand elle passait devant les glaces, Rosanette s'arrêtait une minute pour lisser ses bandeaux. Après la cour du donjon et la chapelle Saint-Saturnin, ils arrivèrent dans la salle des fêtes. Ils furent éblouis par la splendeur du plafond, divisé en compartiments octogones, rehaussés d'or et d'argent, plus ciselés qu'un bijou, et par l'abondance des peintures qui couvrent les murailles, depuis la gigantesque cheminée où des croissants et des carquois entourent les armes de France, jusqu'à la tribune pour les musiciens, construite à l'autre bout dans la largeur de la salle. Les 10 fenêtres en arcade étaient grandes ouvertes. Le soleil faisait briller les peintures. Le ciel bleu continuait indéfiniment l'outre-mer des cintres. Et du fond des bois, dont les cimes vaporeuses emplissaient l'horizon, il semblait voir un écho des halalis poussés dans les trompes d'ivoire et des ballets mythologiques assemblant sous le feuillage des princesses et des seigneurs travestis en nymphes et en sylvains, époque de science ingénue, de passion violente et d'art somptueux. Quand l'idéal était d'emporter le monde dans un rêve des Hespérides et que les maîtresses des rois se confondaient avec les astres. La plus belle de ces fameuses s'était fait peindre à droite, sous la figure de Diane Chasseresse, et même en Diane infernale, sans doute pour marquer sa puissance jusque par-delà le tombeau. Tous ces symboles confirment sa gloire, et il reste là quelque chose d'elle, une voix indistincte, un rayonnement qui se prolonge. Frédéric fut pris par une concupiscence rétrospective et inexprimable. Afin de distraire son désir, il se mit à considérer tendrement Rosanette en lui demandant si elle n'aurait pas voulu être cette femme. « Quelle femme ?»« Diane de Poitiers !» Il répéta. « Diane de Poitiers, la maîtresse d'Henri II. » Elle fit un petit « Ah !» Ce fut tout. Son mutisme prouvait clairement qu'elle ne savait rien, ne comprenait pas. Si bien que par complaisance, il lui dit « Tu t'ennuies peut-être ? » ?»« Non, non, au contraire. » Et le menton levé, tout en promenant alentour un regard des plus vagues, Rosanette lâcha ce mot. « Ça rappelle des souvenirs. » Cependant, on apercevait sur sa mine un effort, une intention de respect. Et comme cet air sérieux la rendait plus jolie, Frédéric l'excusa. L'étang des carpes la divertit davantage. Pendant un quart d'heure, elle jeta des morceaux de pain dans l'eau pour voir les poissons bondir. Frédéric s'était assis près d'elle, sous les tilleuls. Il songeait à tous les personnages qui avaient hanté ses murs, Charles Quint, les Valois, Henri IV, Pierre le Grand, Jean-Jacques Rousseau, et les belles pleureuses des premières loges, Voltaire, Napoléon, Bicêtre, Louis-Philippe, et il se sentait environné, coudoyé par ces morts tumultueux. Une telle confusion d'images l'étourdissait, bien qu'il y trouvât du charme pourtant. Enfin, ils descendirent dans le parterre. C'est un vaste rectangle, laissant voir d'un seul coup d'œil ses larges allées jaunes, ses carrés de gazon, ses rubans de buis, ses ifs en pyramide, ses verdures basses et ses étroites plates-bandes, où des fleurs clairsemées font des taches sur la terre grise. Au bout du jardin, un parc se déploie, traversé dans toute son étendue par un long canal. Les résidences royales ont en elles une mélancolie particulière, qui tient sans doute à leurs dimensions trop considérables pour le petit nombre de leurs hôtes, au silence qu'on est surpris d'y trouver après tant de fanfares, à leur luxe immobile, prouvant par sa vieillesse la fugacité des dynasties, l'éternelle misère de tout. Et cette exhalaison des siècles, engourdissante et funèbre comme un parfum de momie, se fait sentir même aux têtes naïves. Rosanette bâillait démesurément, ils s'en retournèrent à l'hôtel. Après le déjeuner, on leur amena une voiture découverte. Ils sortirent de Fontainebleau par un large rond-point, puis montèrent au pas une route sablonneuse dans un bois de petits pins. Les arbres devinrent plus grands, et le cocher, de temps à autre, disait « Voici les frères siamois, le pharamon, le bouquet du roi », n'oubliant aucun des sites célèbres, parfois même s'arrêtant pour les faire admirer. Ils entrèrent dans la futaie de Franchard. La voiture glissait comme un traîneau sur le gazon. Des pigeons qu'on ne voyait pas roucoulaient. Tout à coup, un garçon de café parut, et ils descendirent devant la barrière d'un jardin où il y avait des tables rondes. Puis, laissant à gauche les murailles d'une abbaye en ruine, ils marchèrent sur de grosses roches et atteignirent bientôt le fond de la gorge. Elle est couverte d'un côté par un entremêlement de grès et de genévrier, tandis que de l'autre, le terrain presque nu s'incline vers le creux du vallon, où, dans la couleur des bruyères, un sentier fait une ligne pâle. Et on aperçoit tout au loin un sommet en cône aplati avec la tour d'un télégraphe par derrière. Une demi-heure après, ils mirent pied à terre encore une fois pour gravir les hauteurs d'Apremont. Le chemin fait des zigzags entre les pins trapus sous des rochers à profils anguleux. Tout ce coin de la forêt a quelque chose d'étouffé, d'un peu sauvage et de recueilli. On pense aux ermites, compagnons des grands cerfs portant une croix de feu entre leurs cornes, et qui recevaient avec de paternels sourires les bons rois de France agenouillés devant leurs grottes. Une odeur résineuse emplissait l'air chaud. Des racines à ras du sol s'entrecroisaient comme des veines. Rosanette trébuchait dessus, était désespérée, avait envie de pleurer. Mais tout au haut, la joie lui revint, en trouvant sous un toit de branchages une manière de cabaret où l'on vend des bois sculptés. Elle but une bouteille de limonade, s'acheta un bâton de houx, et, sans donner un coup d'œil au paysage que l'on découvre du plateau, elle entra dans la caverne des brigands, précédée d'un gamin portant une torche. Leur voiture les attendait dans le bas bréau. Un peintre en blouse bleue travaillait au pied d'un chêne avec sa boîte à couleurs sur les genoux. Il leva la tête et les regarda passer. Au milieu de la côte de Chailly, un nuage, crevant tout à coup, leur fit rabattre la capote. Presque aussitôt, la pluie s'arrêta, et les pavés des rues brillaient sous le soleil quand ils rentrèrent dans la ville. Des voyageurs, arrivés nouvellement, leur apprirent qu'une bataille épouvantable ensanglantait Paris. Rosanette et son amant n'en furent pas surpris. Puis tout le monde s'en alla, L'hôtel redevint paisible, le gaz s'éteignit et ils s'endormirent au murmure du jet d'eau dans la cour. Le lendemain, ils allèrent voir la gorge au loup, la mare aux fées, le long rocher, la marlotte. Le surlendemain, ils recommencèrent au hasard, comme leur cocher voulait, sans demander où ils étaient, et souvent même négligeant les sites fameux. Ils se trouvaient si bien dans leur vieux landau, bas comme un sofa et couvert d'une toile à raies d'éteinte. Les fossés pleins de broussailles filaient sous leurs yeux, avec un mouvement doux et continu. Des rayons blancs traversaient comme des flèches les hautes fougères. Quelquefois, un chemin qui ne servait plus se présentait devant eux en ligne droite, et des herbes s'y dressaient çà et là, mollement. Au centre des carrefours, une croix étendait ses quatre bras. Ailleurs, des poteaux se penchaient comme des arbres morts, et de petits sentiers courbes, en se perdant sous les feuilles, donnaient envie de les suivre. Au même moment, le cheval tournait, ils y entraient, on enfonçait dans la boue. Plus loin, de la mousse avait poussé au bord des ornières profondes. Ils se croyaient loin des autres, bien seuls. Mais tout à coup, passait un garde-chasse avec son fusil ou une bande de femmes en haillons, traînant sur leur dos de longues bourrées. Quand la voiture s'arrêtait, il se faisait un silence universel. Seulement, on entendait le souffle du cheval dans les brancards, avec un cri d'oiseau très faible, répété. La lumière, à de certaines places, éclairant la lisière du bois, laissait les fonds dans l'ombre, ou bien, atténuée sur les premiers plans par une sorte de crépuscule, elle étalait dans les lointains des vapeurs violettes, une clarté blanche. Au milieu du jour, le soleil tombant d'aplomb sur les larges verdures, les éclaboussait, suspendait des gouttes argentines à la pointe des branches, rayait le gazon de traînées d'émeraudes, jetait des taches d'or sur les couches de feuilles mortes. En se renversant la tête, on apercevait le ciel entre les cimes des arbres. Quelques-uns, d'une altitude démesurée, avaient des airs de patriarches et d'empereurs, ou, se touchant par le bout, formaient avec leurs longs fûts comme des arcs de triomphe. D'autres, poussés dès le bas obliquement, semblaient des colonnes près de tomber. Cette foule de grosses lignes verticales s'entr'ouvrait. Alors, d'énormes flots verts se déroulaient en bosselages inégaux jusqu'à la surface des vallées, où s'avançait la croupe d'autres collines dominant des plaines blondes qui finissaient par se perdre dans une pâleur indécise. Debout, l'un près de l'autre, sur quelque éminence du terrain, ils sentaient, tout en humant le vent, leur entrée dans l'âme comme l'orgueil d'une vie plus libre, avec une surabondance de force, une joie sans cause. La diversité des arbres faisait un spectacle changeant. Les hêtres, à l'écorce blanche et lisse, entremêlaient leurs couronnes. Des frênes courbaient mollement leurs glauques ramures. Dans les cépés de charme, des houx pareils à du bronze se hérissaient. Puis venait une file de minces bouleaux, inclinés dans des attitudes élégiaques. Et les pins, symétriques comme des tuyaux d'orgue, en se balançant continuellement, semblaient chanter. Il y avait des chênes rugueux, énormes, qui se convulsaient, s'étiraient du sol, s'étreignaient les uns les autres, et, fermes sur leurs troncs, pareils à des torses, se lançaient avec leurs bras nus des appels de désespoir, des menaces furibondes, comme un groupe de titans immobilisés dans leur colère. Quelque chose de plus lourd, une langueur fiévreuse, planait au-dessus des mares, découpant la nappe de leurs eaux entre des buissons d'épines. Les lichens de leurs berges, où les loups viennent boire, sont couleur de soufre, brûlés comme par le pas des sorcières, et le coassement ininterrompu des grenouilles répond aux cris des corneilles qui tournoient. Ensuite, ils traversaient des clairières monotones, plantées d'un baliveau çà et là.
Un bruit de fer, des coups drus et nombreux sonnaient. C'était, au flanc d'une colline, une compagnie de carriers battant les roches. Elle se multipliait de plus en plus et finissait par remplir tout le paysage, cubiques comme des maisons, plates comme des dalles, s'étayant, se surplombant, se confondant, telles que les ruines méconnaissables et monstrueuses de quelques cités disparues. Mais la furie même de leur chaos fait plutôt rêver à des volcans, à des déluges, aux grands cataclysmes ignorés. Frédéric disait qu'ils étaient là depuis le commencement du monde et resteraient ainsi jusqu'à la fin. Rosanette détournait la tête en affirmant que ça la rendrait folle et s'en allait cueillir des bruyères. Leurs petites fleurs violettes, tassées les unes près des autres, formaient des plaques inégales et la terre qui s'écroulait de dessous mettait comme des franges noires au bord des sables pailletés de mica. Ils arrivèrent un jour à mi-hauteur d'une colline tout en sable. Sa surface, vierge de pas, était rayée en ondulations symétriques. Ça et là, tels que des promontoires sur le lit desséché d'un océan, se levaient des roches ayant de vagues formes d'animaux, tortues avançant la tête, phoques qui rampent, hippopotames et ours. Personne. Aucun bruit. Les sables, frappés par le soleil, éblouissaient. Et tout à coup, dans cette vibration de la lumière, les bêtes parurent remuer. Ils s'en retournèrent vite, fuyant le vertige, presque effrayés. Le sérieux de la forêt les gagnait, et ils avaient des heures de silence, où, se laissant aller au bercement des ressorts, ils demeuraient comme engourdis dans une ivresse tranquille. Le bras sous la taille, ils l'écoutaient parler pendant que les oiseaux gazouillaient, observaient presque du même coup d'œil les raisins noirs de sa capote et les baies des genévriers, les draperies de son voile, les volutes des nuages. Et quand ils se penchaient vers elle, la fraîcheur de sa peau se mêlait au grand parfum des bois. Il s'amusait de tout. Il se montrait, comme une curiosité, des fils de la Vierge suspendus aux buissons, des trous pleins d'eau au milieu des pierres, un écureuil sur les branches, le vol de deux papillons qui les suivaient. Ou bien, à 20 pas d'eux, sous les arbres, une biche marchait, tranquillement, d'un air noble et doux, avec son fan côte à côte. Rosanette aurait voulu courir après pour l'embrasser. Elle eut bien peur une fois, quand un homme, se présentant tout à coup, lui montra dans une boîte 3 vipères. Elle se jeta vivement contre Frédéric. Il fut heureux de ce qu'elle était faible et de se sentir assez fort pour la défendre. Ce soir-là, ils dînèrent dans une auberge au bord de la Seine. La table était près de la fenêtre, Rosanette en face de lui. Et il contemplait son petit nez, fin et blanc, ses lèvres retroussées, ses yeux clairs, ses bandeaux châtains qui bouffaient, sa jolie figure ovale. Sa robe de foulard écru collait à ses épaules un peu tombantes. Et, sortant de leurs manchettes tout unies, ses 2 mains découpaient, versaient à boire, s'avançaient sur la nappe. On leur servit un poulet avec les 4 membres étendus. Une matelote d'anguilles dans un compotier en terre de pipe, du vin râpeux, du pain trop dur, des couteaux ébréchés. Tout cela augmentait le plaisir, l'illusion. Ils se croyaient presque au milieu d'un voyage, en Italie, dans leur lune de miel. Avant de repartir, ils allèrent se promener le long de la berge. Le ciel, d'un bleu tendre, arrondi comme un dôme, s'appuyait à l'horizon sur la dentelure des bois. En face, au bout de la prairie, il y avait un clocher dans un village. Et plus loin, à gauche, le toit d'une maison faisait une tache rouge sur la rivière, qui semblait immobile dans toute la longueur de sa sinuosité. Des joncs se penchaient pourtant, et l'eau secouait légèrement des perches plantées au bord pour tenir des filets. Une nasse d'osier, 2 ou 3 vieilles chaloupes étaient là. Près de l'auberge, une fille en chapeau de paille tirait les seaux d'un puits. Chaque fois qu'il remontait, Frédéric écoutait avec une jouissance inexprimable le grincement de la chaîne. Il ne doutait pas qu'il ne fût heureux pour jusqu'à la fin de ses jours, tant son bonheur lui paraissait naturel, inhérent à sa vie et à la personne de cette femme. Un besoin le poussait à lui dire des tendresses. Elle y répondait par de gentilles paroles, de petites tapes sur l'épaule, des douceurs dont la surprise le charmait. Il lui découvrait enfin une beauté toute nouvelle, qui n'était peut-être que le reflet des choses ambiantes, à moins que leur virtualité secrète ne l'eût fait s'épanouir. Quand il se reposait au milieu de la campagne, il s'étendait la tête sur ses genoux, à l'abri de son ombrelle, ou bien, couché sur le ventre au milieu de l'herbe, ils restaient l'un en face de l'autre, à se regarder, plongeant dans leurs prunelles, altérés d'eux-mêmes, s'en assouvissant toujours, puis les paupières entrefermées, ne parlant plus. Quelquefois, ils entendaient tout au loin des roulements de tambour. C'était la générale que l'on battait dans les villages pour aller défendre Paris. « Ah, tiens, l'émeute !» disait Frédéric avec une pitié dédaigneuse. Toute cette agitation lui apparaissant misérable à côté de leur amour et de la nature éternelle. Et il causait de n'importe quoi, de choses qu'il savait parfaitement, de personnes qui ne les intéressaient pas, de mille niaiseries. Elle l'entretenait de sa femme de chambre et de son coiffeur. Un jour, elle s'oublia à dire son âge. 29 ans. Elle devenait vieille. En plusieurs fois, sans le vouloir, elle lui apprit des détails sur elle-même. Elle avait été demoiselle dans un magasin, avait fait un voyage en Angleterre, commencé des études pour être actrice. Tout cela sans transition, et il ne pouvait reconstruire un ensemble. Elle en conta plus long un jour qu'ils étaient assis sous un platane au revers d'un pré. En bas, sur le bord de la route, une petite fille, nu-pied dans la poussière, faisait paître une vache. Dès qu'elle les aperçut, elle vint leur demander l'aumône, et, tenant d'une main son jupon en lambeaux, elle grattait de l'autre ses cheveux noirs, qui entouraient comme une perruque à la Louis XIV toute sa tête brune, illuminée par des yeux splendides. « Elle sera bien jolie plus tard, » dit Frédéric. « Quelle chance pour elle si elle n'a pas de mère !» reprit Rosanette. « Hein ? Comment ? Mais oui, moi sans la mienne !» Elle soupira et se mit à parler de son enfance. Ses parents étaient des canuts de la Croix-Rousse. Elle servait son père comme apprenti. Le pauvre bonhomme avait beau s'exténuer, sa femme l'invectivait et vendait tout pour aller boire. Rosanette voyait leur chambre avec les métiers rangés en longueur contre les fenêtres, le pot bouille sur le poêle, le lit peint en acajou, une armoire en face, et la soupente obscure où elle avait couché jusqu'à 15 ans. Enfin, un monsieur était venu, un homme gras, la figure couleur de buis, des façons de dévot, habillé de noir. Sa mère et lui eurent ensemble une conversation, si bien que 3 jours après, Rosanette s'arrêta, et avec un regard plein d'impudeur et d'amertume, « C'était fait !» Puis, répondant au geste de Frédéric, « Comme il était marié, il aurait craint de se compromettre dans sa maison. On m'emmena dans un cabinet de restaurateur, et on m'avait dit que je serais heureuse, que je recevrais un beau cadeau. » Dès la porte, la première chose qui m'a frappée, c'était un candélabre de vermeil, sur une table où il y avait 2 couverts. Une glace au plafond les reflétait, et les tentures des murailles, en soie bleue, faisaient ressembler tout l'appartement à une alcôve. Une surprise m'a saisie. Tu comprends, un pauvre être qui n'a jamais rien vu. Malgré mon éblouissement, j'avais peur. Je désirais m'en aller. Je suis restée pourtant. Le seul siège qu'il y eut était un divan contre la table. Il a cédé sous moi avec mollesse. La bouche du calorifère dans le tapis m'envoyait une haleine chaude, et je restais là sans rien prendre. Le garçon qui se tenait debout m'a engagé à manger. Il m'a versé tout de suite un grand verre de vin. La tête me tournait, j'ai voulu ouvrir la fenêtre. Il m'a dit « Non, mademoiselle, c'est défendu. » Et il m'a quitté. La table était couverte d'un tas de choses que je ne connaissais pas. Rien ne m'a semblé bon. Alors je me suis rabattue sur un pot de confiture et j'attendais toujours. Je ne sais quoi l'empêchait de venir. Il était très tard, minuit au moins. Je n'en pouvais plus de fatigue. En repoussant un des oreillers pour mieux m'étendre, je rencontre sous ma main une sorte d'album, un cahier. C'était des images obscènes. Je dormais dessus quand il est entré. Elle baissa la tête et demeura pensive. Les feuilles autour d'eux susurraient. Dans un fouillis d'herbe, une grande digitale se balançait. La lumière coulait comme une onde sur le gazon. Et le silence était coupé à intervalles rapides par le broutement de la vache qu'on ne voyait plus. Rosanette considérait un point par terre à trois pas d'elle, fixement, les narines battantes, absorbées. Frédéric lui prit la main. « Comme tu as souffert, pauvre chérie !»« Oui, » dit-elle, « plus que tu ne crois, jusqu'à vouloir en finir. On m'a repêché. »«
Comment ?»«
Ah, n'y pensons plus. Je t'aime, je suis heureuse. Embrasse-moi. » Et elle ôta une à une les brindilles de chardon accrochées dans le bas de sa robe. Frédéric songeait surtout à ce qu'elle n'avait pas dit. Par quel degré avait-elle pu sortir de la misère? À quel amant devait-elle son éducation? Que s'était-il passé dans sa vie jusqu'au jour où il était venu chez elle pour la première fois? Son dernier aveu interdisait les questions. Il lui demanda seulement comment elle avait fait la connaissance d'Arnoux. Par la Vatnaz. N'était-ce pas toi que j'ai vu une fois au palais royal avec eux deux? Il cita la date précise. Rosanette fit un effort. Oui, c'est vrai. Je n'étais pas gaie dans ce temps-là. Mais Arnoux s'était montré excellent. Frédéric n'en doutait pas. Cependant, leur ami était un drôle d'homme, plein de défauts. Il eut soin de les rappeler. Elle en convenait. N'importe, on l'aime tout de même, ce chameau-là. Encore maintenant ? Dit Frédéric. Elle se mit à rougir, moitié riante, moitié fâchée. Eh non, c'est de l'histoire ancienne. Je ne te cache rien. Quand même cela serait, lui, c'est différent. D'ailleurs, je ne te trouve pas gentil pour ta victime.
Ma victime ?
Rosanette lui prit le menton. Sans doute. Et zézayant à la manière des nourrices, « Avons pas toujours été bien sages? Avons fait dodo avec sa femme? »«
Moi, jamais de la vie !»
Rosanette sourit. Il fut blessé de son sourire, preuve d'indifférence, crut-il. Mais elle reprit doucement et avec un de ces regards qui implorent le mensonge.
« Bien sûr ?»« Certainement !»
Frédéric jura sa parole d'honneur qu'il n'avait jamais pensé à Madame Arnoux, étant trop amoureux d'une autre.
De qui donc?
Mais de vous, ma toute belle.
Ah, ne te moque pas de moi, tu m'agaces.
Il jugea prudent d'inventer une histoire, une passion. Il trouva des détails circonstanciés. Cette personne, du reste, l'avait rendu fort malheureux.
Décidément, tu n'as pas de chance, dit Rosanette.
Oh, peut-être. Voulant faire entendre par là plusieurs bonnes fortunes afin de donner de lui meilleure opinion. De même que Rosanette n'avouait pas tous ses amants pour qu'il l'estimât davantage, car au milieu des confidences les plus intimes, il y a toujours des restrictions, par fausse honte, délicatesse, pitié. On découvre chez l'autre ou dans soi-même des précipices ou des fanges qui empêchent de poursuivre. On sent, d'ailleurs, que l'on ne serait pas compris. Il est difficile d'exprimer exactement quoi que ce soit.
Aussi, les unions complètes sont rares. La pauvre maréchale n'en avait jamais connu de meilleure. Souvent, quand elle considérait Frédéric, des larmes lui arrivaient aux paupières, puis elle levait les yeux ou les projetait vers l'horizon, comme si elle avait aperçu quelque grande aurore, des perspectives de félicité sans bornes. Enfin, un jour, elle avoua qu'elle souhaitait faire dire une messe pour que ça porte bonheur à notre amour. D'où venait donc qu'elle lui avait résisté pendant si longtemps? Elle n'en savait rien elle-même. Il renouvela plusieurs fois sa question, et elle répondait en le serrant dans ses bras « C'est que j'avais peur de t'aimer trop, mon chéri !» Le dimanche matin, Frédéric lut dans un journal, sur une liste de blessés, le nom de Dussardier. Il jeta un cri et, montrant le papier à Rosanette, déclara qu'il allait partir immédiatement. « Et pourquoi faire ?»« Mais pour le voir, le soigner. »« Tu ne vas pas me laisser seule, j'imagine. »« Viens avec moi. » « Ah, que j'aille me fourrer dans une bagarre pareille, merci bien !»« Cependant, je ne peux pas. Et ta ta ta, comme si on manquait d'infirmiers dans les hôpitaux. Et puis, qu'est-ce que ça le regardait encore, celui-là? Chacun pour soi !» Il fut indigné de cet égoïsme, et il se reprocha de n'être pas là-bas avec les autres. Tant d'indifférence au malheur de la patrie avait quelque chose de mesquin et de bourgeois. Son amour lui pesa tout à coup comme un crime. Ils se boudèrent pendant une heure. Puis elle le supplia d'attendre, de ne pas s'exposer. « Si par hasard on te tue ?»« Eh, je n'aurais fait que mon devoir. » Rosanette bondit. D'abord, son devoir était de l'aimer. C'est qu'il ne voulait plus d'elle, sans doute. Ça n'avait pas le sens commun. Quelle idée, mon Dieu ! Frédéric sonna pour avoir la note. Mais il n'était pas facile de s'en retourner à Paris. La voiture des messageries Le Loir venait de partir. Les berlines Lecomte ne partiraient pas. La diligence du Bourbonnais ne passerait que tard dans la nuit et serait peut-être pleine, on n'en savait rien. Quand il eut perdu beaucoup de temps à ces informations, l'idée lui vint de prendre la poste. Le maître de poste refusa de fournir des chevaux, Frédéric n'ayant point de passeport. Enfin, il loua une calèche, la même qui les avait promenés, et ils arrivèrent devant l'hôtel du commerce, à Melun, vers 5 heures. La place du marché était couverte de faisceaux d'armes. Le préfet avait défendu aux gardes nationaux de se porter sur Paris. Ceux qui n'étaient pas de son département voulaient continuer leur route. On criait, l'auberge était pleine de tumulte. Rosanette, prise de peur, déclara qu'elle n'irait pas plus loin, et le supplia encore de rester. L'aubergiste et sa femme se joignirent à elle. Un brave homme qui dînait s'en mêla, affirmant que la bataille serait terminée d'ici à peu. D'ailleurs, il fallait faire son devoir. Alors la maréchale redoubla de sanglots. Frédéric était exaspéré. Il lui donna sa bourse, l'embrassa vivement et disparut. Arrivé à Corbeil, dans la gare, on lui apprit que les insurgés avaient, de distance en distance, coupé les rails. Et le cocher refusa de le conduire plus loin. Ses chevaux, disait-il, étaient rendus. Par sa protection, cependant, Frédéric obtint un mauvais cabriolet qui, pour la somme de 60 francs, sans compter le pourboire, consentit à le mener jusqu'à la barrière d'Italie. Mais, à 100 pas de la barrière, son conducteur le fit descendre et s'en retourna. Frédéric marchait sur la route quand tout à coup une sentinelle croisa la baïonnette. 4 hommes l'empoignèrent en vociférant. « C'en est un! Prenez garde! Fouillez-le! Brigand! Canaille !» Et sa stupéfaction fut si profonde qu'il se laissa entraîner au poste de la barrière, dans le rond-point même où convergent les boulevards des Gobelins et de l'Hôpital et les rues Godefroy et Mouffetard. 4 barricades formaient, au bout des 4 voies, d'énormes talus de pavés. Des torches, çà et là, grésillaient. Malgré la poussière qui s'élevait,
il distingua des fantassins de la ligne et des gardes nationaux. Tous le visage noir, débraillés, hagards. Ils venaient de prendre la place, avaient fusillé plusieurs hommes. Leur colère durait encore. Frédéric dit qu'il arrivait de Fontainebleau au secours d'un camarade blessé logeant rue Bellefond. Personne d'abord ne voulut le croire. On examina ses mains, on flaira même son oreille pour s'assurer qu'il ne sentait pas la poudre. Cependant, à force de répéter la même chose, il finit par convaincre un capitaine qui ordonna à deux fusiliers de le conduire au poste du Jardin des Plantes. Ils descendirent le boulevard de l'hôpital. Une forte brise soufflait. Elle le ranima. Ils tournèrent ensuite par la rue du Marché aux Chevaux. Le Jardin des Plantes, à droite, faisait une grande masse noire, tandis qu'à gauche, la façade entière de la Pitié, éclairée à toutes ses fenêtres, flambait comme un incendie, et des ombres passaient rapidement sur les carreaux. Les deux hommes de Frédéric s'en allèrent. Un autre l'accompagna jusqu'à l'école polytechnique. La rue Saint-Victor était toute sombre, sans un bec de gaz, ni une lumière aux maisons. De 10 minutes en 10 minutes, on entendait « Sentinelle, prenez garde à vous !» Et ce cri, jeté au milieu du silence, se prolongeait comme la répercussion d'une pierre tombant dans un abîme. Quelquefois, un battement de pas lourd s'approchait. C'était une patrouille de 100 hommes, au moins. Des chuchotements, de vagues cliquetis de fer s'échappaient de cette masse confuse. Et, s'éloignant avec un balancement rythmique, elle se fondait dans l'obscurité. Il y avait au centre des carrefours un dragon à cheval, immobile. De temps en temps, une estafette passait au grand galop, puis le silence recommençait. Des canons en marche faisaient au loin sur le pavé un roulement sourd et formidable. Le cœur se serrait à ces bruits différents de tous les bruits ordinaires. Il semblait même élargir le silence, qui était profond, absolu, un silence noir. Des hommes en blouse blanche abordaient les soldats, leur disaient un mot et s'évanouissaient comme des fantômes. Le poste de l'école polytechnique regorgeait de monde. Des femmes encombraient le seuil, demandant à voir leur fils ou leur mari. On les renvoyait au Panthéon, transformés en dépôts de cadavres. Et on n'écoutait pas Frédéric. Il s'obstina, jurant que son ami Dussardier l'attendait, allait mourir. On lui donna enfin un caporal pour le mener au haut de la rue Saint-Jacques, à la mairie du 12e arrondissement. La place du Panthéon était pleine de soldats couchés sur de la paille. Le jour se levait, les feux du bivac s'éteignaient. L'insurrection avait laissé dans ce quartier-là des traces formidables. Le sol des rues se trouvait d'un bout à l'autre inégalement bosselé. Sur les barricades en ruine, il restait des omnibus, des tuyaux de gaz, des roues de charrette. De petites flaques noires, en de certains endroits, devaient être du sang. Les maisons étaient criblées de projectiles, et leurs charpentes se montraient sous les écaillures du plâtre. Des jalousies, tenant par un clou, pendaient comme des haillons. Les escaliers ayant croulé, des portes s'ouvraient sur le vide. On apercevait l'intérieur des chambres avec leurs papiers en lambeaux. Des choses délicates y étaient conservées quelquefois. Frédéric observa une pendule, un bâton de perroquet, des gravures. Quand il entra dans la mairie, les gardes nationaux bavardaient intarissablement sur les morts de Bréa et de Négrier, du représentant Charbonnel et de l'archevêque de Paris. On disait que le duc d'Aumale était débarqué à Boulogne, Barbès enfui de Vincennes, que l'artillerie arrivait de Bourges et que les secours de la province affluaient. Vers 3 heures, quelqu'un apporta de bonnes nouvelles. Des parlementaires de l'émeute étaient chez le président de l'Assemblée. Alors on se réjouit, et comme il avait encore 12 francs, Frédéric fit venir 12 bouteilles de vin, espérant par là hâter sa délivrance. Tout à coup, on crut entendre une fusillade. Les libations s'arrêtèrent. On regarda l'inconnu avec des yeux méfiants. Ce pouvait être Henri V. Pour n'avoir aucune responsabilité, ils le transportèrent à la mairie du 11e arrondissement, d'où on ne lui permit pas de sortir avant 9h du matin. Il alla en courant jusqu'au quai Voltaire. À une fenêtre ouverte, un vieillard en manche de chemise pleurait, les yeux levés. La Seine coulait paisiblement, le ciel était tout bleu, dans les arbres des Tuileries, des oiseaux chantaient. Frédéric traversait le carrousel quand une civière vint à passer. Le poste tout de suite présenta les armes, et l'officier dit, en mettant la main à son shako, « Honneur au courage malheureux !» Cette parole était devenue presque obligatoire. Celui qui la prononçait paraissait toujours solennellement ému. Un groupe de gens furieux escortait la civière en criant « Nous vous vengerons! Nous vous vengerons !» Les voitures circulaient sur le boulevard et des femmes devant les portes faisaient de la charpie. Cependant, l'émeute était vaincue, ou à peu près. Une proclamation de Cavaignac, affichée tout à l'heure, l'annonçait. Au haut de la rue Vivienne, un peloton de mobiles parut. Alors, les bourgeois poussèrent des cris d'enthousiasme. Ils levaient leurs chapeaux, applaudissaient, dansaient, voulaient les embrasser, leur offrir à boire, et des fleurs jetées par des dames tombaient des balcons. Enfin, à 10h, au moment où le canon grondait pour prendre le faubourg Saint-Antoine, Frédéric arriva chez Dussardier. Il le trouva dans sa mansarde, étendu sur le dos et dormant. De la pièce voisine, une femme sortit à pas muets, Mademoiselle Vatnaz. Elle emmena Frédéric à l'écart et lui apprit comment Dussardier avait reçu sa blessure. Le samedi, au haut d'une barricade, dans la rue Lafayette, un gamin, enveloppé d'un drapeau tricolore, criait aux gardes nationaux « Allez-vous tirer contre vos frères ?» Comme il s'avançait, Dussardier avait jeté bas son fusil, écarté les autres, bondi sur la barricade et, d'un coup de savate, abattu l'insurgé en lui arrachant le drapeau. On l'avait retrouvé sous les décombres, la cuisse percée d'un lingot de cuivre. Il avait fallu débrider la plaie, extraire le projectile. Mademoiselle Vatnaz était arrivée le soir même et, depuis ce temps-là, ne le quittait plus. Elle préparait avec intelligence tout ce qu'il fallait pour les pansements. L'aidait à boire, épiait ses moindres désirs, allait et venait plus légère qu'une mouche et le contemplait avec des yeux tendres. Frédéric, pendant 2 semaines, ne manqua pas de revenir tous les matins. Un jour qu'il parlait du dévouement de la Vatnaz, Dussardier haussa les épaules. « Eh non, c'est par intérêt. »« Tu crois ?» Il reprit. « J'en suis sûr. » Sans vouloir s'expliquer davantage. Elle le comblait de prévenance, jusqu'à lui apporter les journaux où l'on exaltait sa belle action. Ses hommages paraissaient l'importuner. Il avoua même à Frédéric l'embarras de sa conscience. Peut-être qu'il aurait dû se mettre de l'autre bord avec les blouses, car enfin, on leur avait promis un tas de choses qu'on n'avait pas tenues. Leur vainqueur détestait la République, et puis on s'était montré bien dur pour eux. Ils avaient tort, sans doute, pas tout à fait cependant. Et le brave garçon était torturé par cette idée qu'il pouvait avoir combattu la justice. Sénécal, enfermé aux Tuileries sous la terrasse du bord de l'eau, n'avait rien de ces angoisses. Ils étaient là, 900 hommes, entassés dans l'ordure, pêle-mêle, noirs de poudre et de sang caillé, grelottant la fièvre, criant de rage, et on ne retirait pas ceux qui venaient à mourir parmi les autres. Quelquefois, au bruit soudain d'une détonation, ils croyaient qu'on allait tous les fusiller. Alors ils se précipitaient contre les murs, puis retombaient à leur place, tellement hébétés par la douleur qu'il leur semblait vivre dans un cauchemar, une hallucination funèbre. La lampe, suspendue à la voûte, avait l'air d'une tache de sang, et de petites flammes vertes et jaunes voltigeaient, produites par les émanations du caveau. Dans la crainte des épidémies,
Une commission fut nommée. Dès les premières marches, le président se rejeta en arrière, épouvanté par l'odeur des excréments et des cadavres. Quand les prisonniers s'approchaient d'un soupirail, les gardes nationaux, qui étaient de faction pour les empêcher d'ébranler les grilles, fourraient des coups de baïonnette, au hasard, dans le tas. Ils furent généralement impitoyables. Ceux qui ne s'étaient pas battus voulaient se signaler. C'était un débordement de peur. On se vengeait à la fois des journaux, des clubs, des attroupements, des doctrines, de tout ce qui exaspérait depuis 3 mois. Et, en dépit de la victoire, l'égalité, comme pour le châtiment de ses défenseurs et la dérision de ses ennemis, se manifestait triomphalement. Une égalité de bêtes brutes, un même niveau de turpitude sanglante. Car le fanatisme des intérêts équilibra les délires du besoin. L'aristocratie eut les fureurs de la crapule, et le bonnet de coton ne se montra pas moins hideux que le bonnet rouge. La raison publique était troublée comme après les grands bouleversements de la nature. Des gens d'esprit en restèrent idiots pour toute leur vie. Le père Roch était devenu très brave, presque téméraire. Arrivé le 26 à Paris avec les Nogentais, au lieu de s'en retourner en même temps qu'eux, il avait été s'adjoindre à la garde nationale qui campait aux Tuileries. Et il fut très content d'être placé en sentinelle devant la terrasse du bord de l'eau. Au moins, là, il les avait sous lui, ces brigands. Il jouissait de leur défaite, de leur abjection, et ne pouvait se retenir de les invectiver. Un d'eux, un adolescent à longs cheveux blonds, mit sa face au barreau en demandant du pain. Monsieur Roch lui ordonna de se taire, mais le jeune homme répétait d'une voix lamentable « Du pain ! Est-ce que j'en ai, moi ?» D'autres prisonniers apparurent dans le soupirail avec leurs barbes hérissées, leurs prunelles flamboyantes, tous se poussant et hurlant « Du pain !» Le père Roch fut indigné de voir son autorité méconnue. Pour leur faire peur, il les mit en joue. Et, porté jusqu'à la voûte par le flot qui l'étouffait, le jeune homme, la tête en arrière, cria encore une fois « Du pain !»« Tiens, en voilà !» dit le père Roch en lâchant son coup de fusil. Il y eut un énorme hurlement, puis rien. Au bord du baquet, quelque chose de blanc était resté. Après quoi, M. Roch s'en retourna chez lui, car il possédait, rue Saint-Martin, une maison où il s'était réservé un pied-à-terre. Et les dommages causés par l'émeute à la devanture de son immeuble n'avaient pas contribué médiocrement à le rendre furieux. Il lui sembla, en la revoyant, qu'il s'était exagéré le mal. Son action de tout à l'heure l'apaisait, comme une indemnité. Ce fut sa fille elle-même qui lui ouvrit la porte. Elle lui dit tout de suite que son absence trop longue l'avait inquiétée. Elle avait craint un malheur, une blessure. Cette preuve d'amour filial attendrit le père Roch. Il s'étonna qu'elle se fût mise en route sans Catherine. « Je l'ai envoyée faire une commission, » répondit Louise. Et elle s'informa de sa santé, de choses et d'autres. Puis, d'un air indifférent, lui demanda si par hasard il n'avait pas rencontré Frédéric. Non, pas le moins du monde. C'était pour lui seul qu'elle avait fait le voyage. Quelqu'un marcha dans le corridor. « Ah, pardon !» Et elle disparut. Catherine n'avait point trouvé Frédéric. Il était absent depuis plusieurs jours, et son ami intime, M. Deslauriers, habitait maintenant la province. Louise reparut toute tremblante, sans pouvoir parler. Elle s'appuyait contre les meubles. « Qu'as-tu ? Qu'as-tu donc ? » s'écria son père. Elle fit signe que ce n'était rien, et par un grand effort de volonté, se remit. Le traiteur d'en face apporta la soupe. Mais le père Roch avait subi une trop violente émotion. Ça ne pouvait pas passer. Et il eut, au dessert, une espèce de défaillance. On envoya chercher vivement un médecin qui prescrivit une potion. Puis, quand il fut dans son lit,
Monsieur Rock exigea le plus de couverture possible pour se faire suer. Il soupirait, il geignait.
« Merci, ma bonne Catherine. Baise ton pauvre père, ma poulette. Ah, ces révolutions !»
Et comme sa fille le grondait de s'être rendue malade en se tourmentant pour elle, il répliqua
« Oui, tu as raison, mais c'est plus fort que moi, je suis trop sensible. »